Vous écoutez Du vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie Du vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon ? Elle est bretonne ?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour à tous, c'est Naomi de la librairie Du vent dans les plumes. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire en ce mois de janvier 2026. Alors, je vais commencer par un album jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Voilà, qui s'appelle « Étrange et fabuleuse Henriette » d'Héloïse Solt et qui est paru chez les merveilleuses éditions Little Urban qu'on adore. Le sous-titre de ce bouquin, c'est « La fillette qui réussit l'exploit de faire aimer les légumes à la cantine ». Voilà, tout un programme. Du coup, on est sur un album jeunesse à partir de 4 ans à peu près et qui est très chouette. Très original, avec plein de couleurs pop. Cette petite héroïne, Henriette, c'est vraiment une drôle de petite fille. Parce que c'est une petite fille qui est passionnée par les endives et par les insectes. Voilà, c'est pas courant ça. Et du coup, forcément, c'est une petite fille qui, dans son entourage, à l'école, etc., est assez incomprise, assez moquée par les autres. Mais un jour, il va se passer dans sa petite vie quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une drôle de bestiole jaune qui va débarquer dans sa chambre. Chambre dans laquelle elle élève plein d'insectes. Et du coup, la grosse bestiole jaune va vouloir manger les insectes d'Henriette. Et du coup, Henriette, qui est une petite fille aussi très bienveillante, ne veut surtout pas qu'elle mange les insectes, mais va chercher à nourrir sa nouvelle amie, cette grande bête jaune. Et du coup, elle va avoir comme idée de fabriquer des insectes avec des légumes. Et du coup, elle va fabriquer des insectes qui ressemblent tellement bien à des vrais insectes que la bestiole va les manger, va se régaler. Et du coup, Henriette va trouver l'idée sympa et va le tenter sur ses camarades d'école et ça va très bien marcher. Donc c'est un bouquin qui est vraiment à la fois drôle, étonnant. Les illustrations sont très chouettes, plein de petits détails originaux et très sympas. Et l'histoire, elle est très belle, une histoire sur la différence, sur l'acceptation de soi et des autres. Ensuite, je vais passer sur un roman francophone que je viens juste de terminer ce matin avec mon café dans mon lit. Un roman de Marion Feyol qui s'appelle Petit Fruit et qui est paru chez Gallimard. Alors Marion Feyol, un petit mot sur elle, parce qu'en fait on la connaît beaucoup dans le monde du dessin. Elle est illustratrice au départ. Elle a bossé beaucoup pour la revue 21 par exemple. Elle est dessinatrice de presse, illustratrice de BD. Elle a reçu le prix spécial du jury du Festival d'Angoulême pour sa BD Les Amours Suspendus. C'est son deuxième roman. On l'avait déjà repéré dans un roman qui s'appelait Du même bois. Et on retrouve cette plume très sensible et poétique qu'elle a. Donc Marion Feyol, elle est ardéchoise. Et c'est souvent, ses romans se passent en Ardèche. Et voilà, il y a aussi tout cet amour de la nature, etc. En fait, ce que j'ai trouvé très sympa dans ce bouquin, c'est vraiment le ton qu'elle utilise, la musicalité qui va se dégager de ses mots. Et elle utilise aussi les codes du conte. On est, donc l'histoire, c'est l'histoire d'une femme. Alors, c'est rigolo parce que tout le long du livre, elle l'appelle la femme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom. On ne sait pas son nom, on ne sait pas son âge. Ça peut être n'importe quelle femme. Et c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est donc un livre sur le désir de maternité, sur la douleur d'un ventre qui reste désespérément vide. Et donc c'est l'histoire de cette femme, de son mari, de cet enfant qui n'arrive pas, mais aussi d'un étrange personnage mutique qui va débarquer chez eux un jour et qui va ne parler qu'en peignant. C'est un personnage qui est à la limite du réel, de l'irréel, on ne sait pas vraiment. Et toute cette histoire très, très lente va suivre aussi le rythme des saisons, de la nature. Elle va décrire des champignons, des fruits sauvages. C'est doux et c'est lent et c'est très poétique, mais c'est très très beau. Et finalement, c'est la rencontre de trois solitudes quelque part dans une ferme en Ardèche. C'est un roman qui est court, qui peut se lire d'une traite. Je pense que ça vaut même le coup, tellement ça emporte. Et c'est tout en sensibilité. Marion Feyol, elle écrit comme on rêve, avec des images, des sensations, des symboles. C'est une lecture vraiment très délicate que je vous conseille fortement. Voilà, ensuite je vais passer sur un roman graphique, une BD, qui est la dernière BD de Étienne Davodeau, qui s'appelle « Là où tu vas » chez Futuropolis, avec comme sous-titre « Voyage au pays de la mémoire qui flanche ». Donc dans ce nouvel ouvrage, Étienne Davodeau va changer un peu de ses habitudes puisqu'il va rentrer dans un récit qui est beaucoup plus intime, dans la mesure en fait où il va suivre sa compagne Françoise dans son travail. Donc Françoise elle accompagne des personnes souffrant d'Alzheimer ou de troubles cognitifs de la mémoire, quels qu'ils soient. Et en fait, elle travaille pas en EHPAD, elle va vraiment à la rencontre des gens chez eux. C'est pour moi une BD qui est aussi touchante qu'utile, parce qu'en fait, elle va mieux nous faire connaître et comprendre la manière dont ces personnes peuvent penser et comment appréhender ces sujets avec le plus de bienveillance et d'accompagnement possible. Dans cette BD, ce que j'ai aimé, c'est que l'accent est vraiment mis sur la personne plus que sur le malade ou sur la maladie. C'est vrai que les troubles cognitifs de la mémoire, ce sont des troubles qu'on ne connaît que peu et avec lesquels on est encore très souvent maladroit. Donc je pense que c'est un ouvrage très important aussi pour les accompagnants. Par exemple, un exemple qui peut sembler très bête, mais qui est très parlant, je trouve, et que Françoise raconte à son mari, et donc il l'écrit dans la BD, c'est qu'on ne va jamais demander à quelqu'un qui est amputé d'une jambe de se lever. Et on va passer son temps à demander à un Alzheimer de se rappeler. Mais enfin, tu te rappelles pas hier soir ce que tu as mangé, etc. Et voilà, parce qu'en fait, on n'arrive pas, on a envie qu'elle se rappelle, et alors que la personne n'est juste pas capable, et c'est normal. Donc voilà, je trouve que c'est un ouvrage aussi émouvant qu'utile. Et puis bon, ben, toujours avec la douceur et le trait sobre d'Étienne Davodeau, il sait capter les regards, il sait capter les hésitations. Enfin vraiment, on le fait, ce voyage au pays de la mémoire qui flanche, en sa compagnie et en la compagnie de Françoise. Et voilà, je le conseille fortement, c'est très très beau. Alors pour finir, je vais passer en sciences humaines, avec un essai d'un anthropologue qui s'appelle Michel Agier, qui s'appelle « L'étranger qui vient », avec comme sous-titre « Repenser l'hospitalité » aux éditions Le Seuil. Alors Michel Agier, il est anthropologue, directeur de recherche à l'IRD et à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Il a déjà publié « Gérer les indésirables » chez Flammarion et « La condition cosmopolite » aux éditions La Découverte. L'ethnologue va dans ce petit bouquin qui semble pas très grand, mais qui regorge tellement tellement d'informations. Il va se pencher sur la notion d'hospitalité et va chercher à en tirer les principes politiques à la hauteur des enjeux actuels. Alors je vais vous lire un passage de l'introduction du livre. Alors. Dans la plupart des pays européens, depuis les années 2000 et plus sensiblement depuis 2015, un écart est apparu entre les gouvernements nationaux et certains habitants à propos de l'accueil des migrants et des réfugiés. Les murs, les expulsions, les contrôles de masse, la présence dissuasive de la police seraient censés rassurer des habitants apeurés, prêts à céder une part de leur propre liberté face au spectre de l'étranger dangereux, qui serait ainsi tenu à distance. En France, en particulier, le peu d'empressement ou de savoir-faire des autorités gouvernementales pour accueillir dignement et pacifiquement les migrants et réfugiés comme la confusion entretenue à propos d'une arrivée, certes importante, mais en rien massive ou catastrophique, des migrants à Paris, 26 000 au Calais, ont semblé répondre, tout en l'entretenant, à une inquiétude populaire qu'exprimeraient plus adéquatement les partis d'extrême droite. Et pourtant, cette même attitude a eu pour effet de faire réagir une autre partie de la population de manière inverse. Des habitants se sont sentis concernés par l'état du monde et par l'hostilité affichée par leur gouvernement contre certains étrangers. Ils ont voulu être agissants plutôt qu'indifférents, solidaires avec des peuples et des personnes en danger qui arrivaient tout près d'eux à travers leurs montagnes, sur leurs côtes, dans leurs rues. Il est ainsi devenu possible et fréquent de se mobiliser et de critiquer les États à partir du point de vue sociétal, communautaire ou micro-local de l'hospitalité. Une politisation de l'hospitalité, qui est une manière alternative de définir la politique de l'hospitalité et de comprendre le sens contemporain de cette pratique, à la fois ancestrale et sans cesse transformée. C'est sous le prisme de l'anthropologie, de la philosophie et de l'histoire que le chercheur va interroger cette notion d'étranger, d'hôte, d'hospitalité. D'ailleurs, j'ai une chose que j'ai trouvée assez intéressante dès l'introduction du bouquin, c'est que à la notion de crise migratoire qu'on entend à tire-larigot dans tous les médias, il préfère utiliser l'expression « crise des États-nations face aux défis de la mobilité ». Cette crise des États-nations face aux défis de la mobilité va amener une part des citoyens, parfois, à accueillir chez eux, à devenir des hôtes, quitte à rentrer dans les désobéissances civiles, puisque les gouvernements ne vont pas forcément suivre. Donc, on est sur vraiment de la science sociale pure, donc c'est une lecture qui est assez exigeante. Où il va redéfinir chacun des mots, etc. Mais c'est passionnant et c'est très inspirant. Car finalement, l'étranger qui vient nous demande de penser autrement la place de chacun et chacune dans le monde. Et donc, pour faire écho à ce dernier conseil de lecture qui m'a beaucoup touchée, je vous propose une chanson du chanteur El Gato Negro qui s'appelle « Ouvre la porte » parce que voilà, de l'importance d'ouvrir la porte et de tendre la main. Merci.
Nous sommes des milliers qui arrivons sur le sable, au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'Auvergnat qui fut un jour si aimable, ouvre la porte, je t'en supplie. On a vécu tous les supplices, on veut juste sortir de la merde. On a voyagé dans la pisse, donne-moi le vert de ton herbe. Pas le bleu de la police qui nous repousse dans la mer en criant patrie et justice. Si l'Afrique est votre mère, la France est notre fils. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Tu peux choisir de barricader tes rues, laisser mourir ou faire celui qui n'a pas vu. Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat, mauvais garçon. Ta politique du repli qui voudrait noyer le poisson. Pas le bon papier, contrefaçon, contre le mur de toute façon. Pas par ici, retour maison, maman là-bas qui risque la prison. Mais tu crois quoi? Tu m'envoies où? Viens nous en aide si tu as les couilles. Là-bas c'est le feu, là-bas il fait faim. Ouvre les yeux et donne la main. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Le ciel ne t'appartient pas. Le sol ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Le ciel ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte.
Vous écoutez Du vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie Du vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon ? Elle est bretonne ?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon, si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi.
C'est chouette comme métaphore, non ?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.